France Inter.
Je travaille toujours autour de, pas de la résolution d'un mystère, mais de la mise en scène d'un mystère et de la façon dont les protagonistes vont vivre au cœur de ce mystère. Je me suis rendu compte qu'il y avait presque toujours au centre de ce que j'écrivais quelque chose d'irrésolu.
Parfois, entre les films, je me sens tellement exilée et flottante. Et dans les films, je suis plus chez moi.
Marine Diaye revient avec son univers étrange et sa langue élégante. Une fois encore, la romancière se raconte en usant volontiers de la fiction. Dans Le Bon Denis, au Mercure de France, une fille tente de savoir qui est son père, cet homme africain qui l'a abandonnée avec sa mère quand elle était bébé. Aura-t-elle une réponse ? Bonjour Marine Diaye.
Bonjour.
Bienvenue dans le Grand Atelier. Vous êtes accompagnée d'une cinéaste qui n'est pas une inconnue de vous ni de nous. Vous avez co-signé le scénario de son film White Material avec Isabelle Huppert. Bonjour Claire Denis.
Bonjour.
Bienvenue. Dans le
Merci.
Grand Atelier, nous partirons aussi pour Châteauroux. La scène nationale Equinox vous invite à un festival qui propose du théâtre, du cirque, de la danse, de la marionnette, du théâtre de rue, le festival Après le dégel. 17h06, c'est votre magazine culturel sur Inter.
France Inter, le Grand Atelier, Vincent Josse.
On va commencer par écouter une chanson de Junior, ce trio pop originaire de Paris. La musique, c'est très important, entre autres pour Claire Denis.
Oui, enfin, je crois que la musique, c'est important un peu pour tout le monde, mais ça...
C'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas la musique. Hein.
Ah oui, bon, peut-être.
On les appelle des A-musiques, A-musiques.
Oui.
Je dis ça parce que dans vos films, il y a eu longtemps un groupe qui s'appelle Tinder Ticks.
Oui. Je travaille avec eux depuis 25 ans maintenant.
Oui.
Ils font presque partie de ma vie, au fond, parce que dès que j'ai un projet de film, je pense aussi à eux. Pourtant, c'est drôle comme ces Anglais qui ne vivent plus en Angleterre, qui vivent tous en Europe, sont restés Anglais et pas tellement poreux. Quoi. Moi, je travaille avec eux et c'est une entité.
Travailler avec des musiciens, ça veut dire que l'écriture peut-être est musicale. Marine Diaye, est-ce que quand vous commencez un livre, que vous commencez une phrase, vous pensez à la musique ou à faire en sorte que ces phrases qui viennent soient musicales ?
Non, je ne dirais pas ça. Je ne pense à aucune espèce de musique. Ça me gênerait, je crois. Je n'en écoute jamais
pendant
l'écriture. Je ne fais pas effort pour que ma phrase soit musicale. Elle l'est ou elle ne l'est pas, mais ce n'est jamais une intention de ma part.
Vous diriez quoi ? Que c'est le fruit du hasard ?
C'est au lecteur de dire si la phrase l'est ou pas. Moi, je ne m'en rends pas vraiment compte. Je serais incapable de dire de mes phrases. Ce sont des phrases musicales. C'est
Claire
un
Denis,
regard extérieur.
Est-ce qu'il y a de la musique dans la langue de Marine Diaye quand vous lisez La Sorcière, quand vous lisez Le Bon Denis ?
Moi, je ne sais pas. Quand je lis les phrases de Marie, j'ai l'impression qu'elle m'oblige à aller jusqu'au mot qui va compter dans la phrase, qu'elle me dirige et qu'elle me coupe aussi. Il y a quelque chose de coupant dans cette façon d'écrire. Vous avez dit élégante, mais je dirais qui nous maîtrise, nos lecteurs, qui nous saisit et qui nous cisaille parfois.
Oui, c'est vrai. Qui nous bouscule un peu.
Oui, c'est coupant.
Eh bien, on va écouter ce fameux trio Junior mené par la chanteuse, autrice et compositrice Anna Jean. C'est le Grand Atelier de Marine Diaye.
Voilà, voilà. Clair, c'est clair, t'es décidé.
Sur France Inter.
Et oui, sur France Inter, on est avec Marine Diaye, l'auteur, l'autrice de La Sorcière, de Un temps de saison, de Hilda, de Rosie Carpe, de Trois femmes puissantes, de Goncourt 2009, accompagnée de la cinéaste Claire Denis. Alors, on cite Nénette et Bonnie, on cite Chocolat, c'était son premier film, on cite Trouble Every Day, 35 Rome, White Material, Les Salauds, etc. Je précise à propos, Claire Denis, de Tinder Ticks, le groupe qui travaille avec vous, que après vos films, après avoir travaillé avec vous, quelque chose de très beau qui s'enclenche, c'est qu'ils font des concerts et puis qu'ils utilisent vos images. Comme s'il y avait un dialogue permanent entre vous.
Oui, oui, oui.
C'est rare, ça.
C'est rare, mais peut-être c'est parce qu'on se comprend assez bien sans se parler beaucoup, donc on se répond comme ça, voilà.
Comme un vieux couple.
Oh, pas vieux,
qui s'aime toujours.
Comme un couple encore aimant.
Oui, c'est ça, l'amour dur. J'écoutais avec attention, Marine Diaye, vos mots dans le générique. Et vous disiez que vous étiez attachée au mystère, que vous aviez le goût du mystère. Et effectivement, nous, lecteurs et lectrices de vos romans, on est aussi sensibles à ce mystère qui court. Vous mettez, et Claire Denis le disait, les lecteurs dans un état d'attente, de suspension. On est plongé dans un univers qui n'existe vraiment que chez vous, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est chez Marine Diaye. Il y a quelque chose entre le rêve et le réel, ou le cauchemar, entre la réalité et le fantastique aussi chez vous.
J'ai, comme vous le dites, le goût du mystère, mais d'une certaine façon, je n'y travaille pas. Cela se produit dans ce que j'écris aussi d'une manière qui échappe à ma maîtrise. Je ne commence pas un livre en me disant qu'il devra être mystérieux ou énigmatique, ni même qu'il devra être traversé par l'étrangeté. Ça se fait parce que je suis ainsi, je pense, et ce n'est pas du tout entièrement sous mon contrôle.
On ne prend jamais une route toute tracée, Claire Denis, quand on lit Marine Diaye. On prend une nationale, d'un seul coup une départementale, on pense aller tout droit, hop, le roman se déplace vers la droite. Il y a pas mal d'ambiguïté. Et vous disiez tout à l'heure, on est cisaillé, et on prend du plaisir à se perdre un peu parfois et puis à retrouver sa route.
La cisaille, pour moi, c'était la lame de l'écriture. Un livre de Marie, je ne sais pas s'il m'emmène sur une nationale ou sur une départementale, mais je sais qu'il va m'emmener vers un destin de lectrice que je n'ai pas encore rencontré. Comme ce livre-là, Le Bon Denier, que tout d'un coup, je vais retrouver au passage des choses qui ont affecté ma vie à moi aussi, et que je vais reconnaître, mais qui me sont offertes sous un autre angle.
Inédit.
Complètement. Mmh.
Le Bon Denis, vous venez de le citer, Claire Denis, il y a 4 chapitres différents, Marine Diaye, 4 scènes indépendantes, mais qui se rejoignent. À chaque fois, la narratrice essaie de savoir qui était son père, ce père africain qui est parti du foyer quand elle était bébé. Elle tente de le retrouver d'ailleurs quand elle a 18 ans. Alors, est-ce qu'elle va le retrouver? Est-ce que celui qu'elle va rencontrer sera son père? On ne dit rien. Justement, c'est ce mystère qui vient naturellement. Vous disiez que vous ne le travailliez pas, qu'il n'y avait pas d'anticipation et qu'il arrivait. Ce que vous décrivez ici, c'est une quête, la quête d'une fille pour son père.
Oui, c'est à la fois une quête et une enquête que mène cette fille qui n'a que très peu d'éléments, d'indices à sa disposition, et d'autant moins que ces indices, elle les tient principalement de sa mère qui est en train de perdre la tête ou qui feint de la perdre lorsque les questions l'embarrassent.
Elle est dans un EHPAD.
Oui, où l'a placée sa fille, certes avec son consentement, mais placement dont la mère lui fait muettement reproche, et la fille se demande si ce refus silencieux de la mère de l'aider à mener cette enquête n'est pas une sorte de vengeance prise sur ce placement dans une maison de retraite qui a beau être la meilleure qui puisse être dans ce genre de situation, reste pour cette mère quelque chose comme un échec de sa propre vie.
Est-ce qu'il faut lire ce livre, entre autres, pour vous connaître, puisqu'il y a pas mal d'éléments biographiques? Votre père sénégalais est parti quand vous étiez enfant, votre mère française est restée avec ses 2 enfants, vous êtes la sœur de Pape Ndiaye, c'est vous et pas vous, cette narratrice, évidemment.
Oui, c'est pour ça qu'il m'importe de dire la narratrice, car c'est un je qui n'est pas moi au sens littéral du terme, c'est à moi tout traversé de fiction. Et me demandiez si c'était ce livre, lorsqu'on le lit, une façon de me connaître. Je n'en suis pas certaine. C'est plutôt une façon de mieux connaître ce qu'a pu être l'arrivée au tout début des années 60 d'un Africain en France. C'est plutôt cette histoire d'exil que je raconte. Je ne crois pas me révéler davantage que dans les livres précédents, et puis ce n'est pas ça qui m'importe, en fait. Ce n'est pas une autobiographie, c'est une sorte d'autoportrait à travers l'histoire de mes parents.
Claire Denis, comment vous l'avez reçu, ce livre? Vous connaissez bien Marine Diaye, vous avez travaillé ensemble, et j'imagine qu'il vous arrive de vous voir dans la vraie vie.
Oui, bien sûr, bien sûr, oui, mais le livre, c'est autre chose, c'est cette quête, enquête, avec les 4 quartiers, là, comme un fruit qu'on ouvre. Dans le quartier 2, là, les 2 adolescences, c'est là où je saisis le début de l'exil, quoi. Parce que je vois se dessiner ce jeune homme africain qui va venir en France.
Les 2 adolescences, c'est l'adolescence de la mère et l'adolescence du père.
Du père, qui n'ont finalement pas du tout la même adolescence, mais qui ont probablement la chance de se retrouver. Et ils se complètent.
Ils se complètent.
Ouais, je trouve ça très magnifique, ces 2 voix. Oui. Et je pense aussi que pour rentrer dans le livre avec, dans le couloir de l'EHPAD, où on vole les vêtements de la mère, c'est vraiment l'expérience. Enfin, on les vole pas, on les chippe. C'est-à-dire, l'EHPAD, c'est peut-être le mot qui nous renvoie à nous coupables. Coupables de pas pouvoir vivre auprès de nos parents longtemps. Et c'est un mot terrible, je trouve. Ouais.
Vous avez raison de parler.
Même s'il est le meilleur possible.
Claire Denis, vous avez raison de parler de cet épisode dans ce roman, parce que moi, il me reste des images de ces femmes qui portent les habits de la mère de la narratrice, et on ne sait pas si la mère a donné ces vêtements ou si elle a été volée par ces femmes, et là aussi, vous laissez traîner une ambiguïté. Il n'y a jamais de réponse franche.
Oui, parce que la mère de la narratrice l'ignore elle-même, elle ne pense pas les avoir donnés, mais est-ce si sûr, voilà, personne ne le sait exactement, mais c'est pas du tout quelque chose de grave. Mais pour la mère, cela signifie l'abandon de sa volonté.
Oui.
Je pense qu'on a le droit de ne pas souhaiter vivre avec ses vieux parents. Ce ne doit pas être, semble-t-il, un motif de culpabilité. On a le droit de ça.
Non, mais tu as complètement raison. Hein. J'ai des souvenirs de l'EHPAD où est morte ma grand-mère, qui me donne encore des cauchemars, mais je suis complètement d'accord avec toi. Ouais.
C'était où ?
C'était dans la banlieue parisienne, dans la banlieue sud, et ses vêtements disparaissaient, donc on venait le samedi avec des nouveaux vêtements, mais c'est pas que les vêtements disparaissaient, c'était que nous, on se sentait coupables de l'avoir abandonnée dans un monde qu'on ne connaissait pas, où ce qu'elle nous disait, on ne pouvait pas le vérifier, on n'était pas sûr qu'elle ne les avait pas donnés, en effet, ouais. Et les vêtements, c'était rien pour elle. Ça comptait pas, mais pour nous, c'était comme des accusations, je crois. Je l'ai vécu comme ça, oui.
Est-ce que ça vous fait penser, est-ce que ça vous a fait penser à votre vieillesse en devenir, et ce que vous voudrez ou pas, Claire Denis ?
Non. Non, je pense que... C'est pas que je veux pas penser à ma vieillesse, mais en fait, quand je pensais à la vieillesse, pour moi, c'est penser à la mort. Donc, la vieillesse, j'essaye de me dire que c'est une étape intermédiaire. Je veux pas dépendre ni rendre malheureux des gens de ma famille.
On va parler de cinéma, parce que votre rencontre a trait au cinéma. Vous vous rencontrez en 2009, Marine Diaye, et vous travaillez à quatre mains sur un scénario d'un film qui s'appelle White Material, je le disais, quelque part en Afrique, dans une région qui est en proie à la guerre civile. Il y a Maria, qui est incarnée par Isabelle Huppert, qui refuse d'abandonner sa plantation de café avant la fin de la récolte, malgré la menace qui pèse sur elle et qui pèse sur les siens.
Tu peux pas partir comme ça, Maurice, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut une semaine pour finir. Tu l'as vu, le café, t'es d'accord ? Il faut une semaine au maximum. Une petite semaine. Ah, tout d'un coup, c'est plus possible de rester ici, quelques jours ? Ça devient trop dangereux ? C'est peut-être moins dangereux, tu sais, en fait. Maurice, on n'est pas obligé de se laisser terroriser, on peut se défendre.
Tu crois que l'hélico, il est venu pour s'amuser ? Il est venu exprès pour toi et pour ta famille, pas pour nous. Il a raison, André. Le café, c'est que le café, c'est pas la vie.
Et sont où vos enfants ?
Il y a longtemps qu'on les a mis à la baie.
Quoi ?
Il y a longtemps qu'on les a mis à la baie, même ça tu n'avais pas remarqué.
T'as un fils ? Sors-le de son lit si tu peux et dis-lui de venir cueillir.
Quel droit tu parles de ma mère comme ça ? Allez, foutez le camp, je veux plus vous voir ici ! Plus jamais, tu m'entends, Maurice ? T'as compris ?
Vous êtes toutes les deux très attentives. Vous écoutiez quoi, là, précisément, Claire Denis ? J'ai l'impression que vous réécoutiez chaque mot, chaque dialogue.
Oui, et la vibration de la voix d'Isabelle qui me fait venir les larmes aux yeux. Parce que cette mariage, elle est toujours vivante pour moi. Et je pense à elle souvent. Je l'aime parce qu'elle s'est construite avec Marie et avec Isabelle. Et... Voilà, je pense souvent à elle.
Il faut préciser. Marine Diaye.
Excusez-moi, ce n'est pas exclu qu'elle revienne un jour, d'ailleurs. Ça...
Pas du tout. On a souvent pensé à sa vie après, après la plantation de café. Ouais, parce que elle... Moi, je l'aime énormément, Maria, oui. Et que je pense qu'elle est... Qu'elle n'a pas le droit de disparaître totalement.
Il faut préciser qu'il y a là des éléments biographiques, sans chercher à tout prix la personne derrière l'artiste à chaque fois, dans un film ou dans un roman, mais vous avez grandi une partie de votre enfance et jeunesse en Afrique, au Cameroun, puis dans d'autres pays, puisque dites-nous ce que faisait votre père.
Mon père était administrateur des colonies, et puis au moment de l'indépendance, comme il voulait pas revenir vivre en France, il a travaillé pour la mairie de Douala au Cameroun. Ensuite, il a travaillé à Bamako pour l'enseignement, je crois. Oui.
Et puis, vous êtes revenu en France, vous avez fait des études en France et vous avez souhaité retourner en Afrique. Puis ensuite, vous reviendrez en France et vous serez happé par le cinéma. Vous ferez l'IDEC, l'école de cinéma. Et Marine Diaye, qui a un père sénégalais, mais qui est née en France, au sud de Paris, je crois.
Je suis née en Beauce.
En Beauce. Et vous avez grandi à une centaine de kilomètres de Paris, c'est ça?
J'ai grandi en banlieue à Fresnes d'abord et ensuite Bourg-la-Reine.
Voilà, donc Marine Diaye est française. Qui dit de vous, Claire Denis, elle est bien plus africaine que moi?
Ah mais bien sûr.
Racontez-nous ça.
C'est un fait, j'ai grandi en France sans aucun lien avec ma famille africaine, et je ne suis allée au Sénégal brièvement, d'ailleurs qu'à l'âge de 19 ans, alors que Claire a grandi en Afrique. L'Afrique est le monde, l'univers, les impressions de son enfance, ce qui n'a jamais été mon cas.
Vous êtes allés ensemble en Afrique?
Oui, on a fait des repérages au Ghana, et ça reste l'un des voyages, sinon le... Je pense le plus important de ma vie, ce voyage avec Claire, cette pérégrination avec Claire qui
était chez elle.
Oui, puis Claire en voyage ne craint rien. Elle est raisonnable et prudente, mais elle a aussi une forme de témérité que j'ai admirée et qui m'a amusée, car je m'en sentais si loin de cette vaillance.
C'était quoi, la vaillance de la réalisatrice, peut-être, qui doit faire son film et qui doit trouver les bons lieux, etc.
Je sais pas, je crois que j'étais d'abord très heureuse d'être avec Marie, de découvrir le Ghana, que je ne connaissais pas, et nous y étions parce que nous savions qu'il y avait des plantations de café, donc on recherchait... Moi, j'y connaissais rien au café, hein. Il fallait voir des plantations de café, comment les gens travaillaient le café... Je pense pas que j'avais de la vaillance, je pense que j'avais une forme d'exaltation parce que de rencontrer les planteurs de café, de voir ces caféiers, c'est très beau de découvrir quelque chose qu'on... Le café, c'est dans la vie de tous les jours. Et pourtant, tout d'un coup, découvrir une plantation de café à travers ce projet de scénario, pour moi, c'était exaltant, oui, vraiment.
Comment vous avez travaillé ensemble? Au fond, que vous a demandé Claire Denis quand elle vous a approché pour la coécriture de ce scénario, Marine Diaye?
Dans mon souvenir, elle ne m'a rien demandé de précis. Mmh. On s'est rencontrés, je ne sais plus si la première fois tu es venue, Claire, me voir en Gironde où je vivais alors avec ma famille et mes très jeunes enfants, ou si on s'est rencontrés une première fois à la... maison de production, je ne sais pas, mais dans mon souvenir, on se voit sur le quai de la gare de La Réole où j'étais venue te chercher. Et Claire ne m'a rien demandé, on s'est rencontrés, on s'est comprises, je crois.
Elle vous dit, je voudrais qu'on construise, qu'on écrive le personnage de Maria, qui est cette femme blanche qui s'accroche à sa plantation alors qu'il y a des tourments politiques autour d'elle.
J'ai pas ce souvenir-là. On avait évoqué assez longuement le premier livre de Doris Lessing.
Vaincue par la brousse.
Oui, c'est ça.
Vaincue par la brousse. D'abord, j'aime beaucoup le titre en français, je l'aime beaucoup en anglais aussi. Vaincue, peut-être c'était un mot qui nous parlait de Maria déjà. Mais je crois qu'il y avait eu aussi, à ce moment-là, en Côte d'Ivoire, un coup d'État larvé, et l'armée française était venue chercher des cultivateurs, enfin des gens qui travaillaient le café ou le cacao en Côte d'Ivoire, en leur disant qu'il fallait partir. Et j'avais entendu à la radio un jour un homme qui disait mais qu'il n'avait aucune intention de partir parce qu'il n'avait pas d'autre endroit où aller, et qui disait « moi je vais rester avec mes caféiers. Et donc ça m'avait impressionnée. C'est plus que la colonisation, quoi. C'est les arbres que j'ai fait pousser. C'est différent un petit peu.
Et vous saviez que Marie Ndiaye allait apporter quoi? Qu'est-ce que vous attendiez au fond de cette romancière sur ce sujet?
Tout, son regard, sa compréhension d'une femme vaincue peut-être, apparemment, mais qui ne serait pas vraiment vaincue. Il me semblait qu'avec Marie, la femme ne serait pas vaincue.
Oui, parce que contrairement à ce qu'on pourrait supposer, Claire n'est pas venue me voir parce que je m'appelle Ndia et que j'ai un père africain. C'était annexe, ça, je crois. C'était oui. Pas la raison.
Ah oui, je crois que c'est la lecture de tes livres qui m'a tellement marquée que quand j'ai eu l'occasion, la possibilité de rencontrer Marie, voilà, c'était une telle chance de pouvoir travailler avec elle.
Vous découvriez le cinéma à ce moment-là, Marie Ndiaye?
Oui.
Qu'est-ce que vous avez découvert et peut-être appris?
J'ai appris déjà à travailler avec le regard, la pensée d'une autre personne, Claire en l'occurrence, ce qui bien sûr n'arrive jamais lorsqu'on écrit ses romans. Et j'ai trouvé ça captivant parce que c'était soudain comme si j'avais eu moi-même deux pères dieux, deux esprits, deux cœurs qui se mêlaient, parfois se séparaient puisque nous sommes deux personnalités distinctes, mais c'était comme une augmentation de la vie de mon cœur, de mon esprit, c'était comme moi surdimensionné grâce à Claire.
Ça donne envie d'écrire, ça donne envie de travailler avec un cinéaste et réciproquement.
Pour moi, c'était tout un trajet d'aller en Gironde, là où habitait Marie, de la retrouver à la gare ou de louer une voiture, de venir dans sa maison, dans son bureau, d'être sous son ciel. Ça comptait beaucoup parce que ça faisait partie quand même du... Ça a fait partie du film, je crois. La vie auprès de Marie, les moments passés auprès de Marie. C'est devenu quelque chose qui est entré comme un personnage dans le film qui a composé Maria.
Et cette osmose entre vous que j'entends, elle n'est pas systématique avec un co-scénariste, Claire Denis, j'imagine?
Non.
Là, il y a eu quelque chose de particulier.
Ben, parce que j'avais eu cette chance de lire les livres de Marie et puis de la rencontrer. C'était pas des rencontres de bureau. C'était chez elle, Marie faisait la cuisine, il y avait ses enfants. J'ai partagé un moment de sa vie, et donc ça habitait le film.
Claire Denis, qui est l'invitée de Marie Ndiaye, le grand atelier de Marie Ndiaye sur France Inter, on va écouter Nina Simone, notamment cette chanson « My Father », mon père. Ça rejoint un peu le thème de « Le bon Denis » qui sort au Mercure de France.
My father always promised me would live in France. We'd go boating on the Seine. I would learn to dance. We lived in Ohio then.
Belle chanson, ça c'est Claire Denis qui dit ça, de Nina Simone. Qu'est-ce qui est beau?
Tout. Les pères s'en vont toujours, même quand ils restent à la maison.
Ça a été le cas aussi dans votre famille?
Non, mon père est resté, mais je pense que les pères s'en vont, je pense. Pas seulement ceux qui quittent le foyer. Il y a quelque chose qu'on a peur de ne jamais avoir vu ou qu'on a toujours perdu. C'est le père, il me semble.
Marine Diaye.
Peut-être pas.
Peut-être c'est moi. Pas. Mais en tout cas, il me semble que ce n'est pas nécessairement ni quelque chose de dramatique, ni une si mauvaise chose. Je pense que je n'aurais pas forcément gagné à rester dans l'orbite de mon père, finalement, avoir été une petite planète détachée de cette planète considérable qu'il était. Je pense que cela m'a plutôt profité.
Pourquoi ? En quoi ?
Parce que je pense, je l'ai très très peu connu, pratiquement pas, mais j'ai entendu plusieurs récits à son propos. Je pense que c'était quelqu'un auprès de qui on ne pouvait pas vivre sans souffrir d'une certaine froideur, d'une certaine sécheresse, et sans souffrir aussi de sa prospérité. C'est un homme qui est devenu considérable, bien que venant de la misère la plus grande.
Qu'est-ce qu'il a fait comme métier ?
Il a fait en France des études d'ingénieur. Il a fait l'école des mines, donc dans les années 60. J'ai appris, je ne sais pas si c'est exact, mais on m'a dit qu'il a été le premier ingénieur d'Afrique de l'Ouest. Et ensuite, il a travaillé dans des banques de développement international, d'abord au Soudan, et puis la guerre s'étant déclarée au Soudan, il a travaillé dans des pays du Golfe, je ne sais pas où exactement, avant de rentrer au Sénégal au moment de l'élection d'Abdou Diouf, et d'entrer alors dans le gouvernement de ce dernier. Mais je ne pense pas que j'aurais été la plus heureuse des filles dans l'ombre d'un père tel qu'il l'était. Donc c'est peut-être une forme de bénédiction aussi.
Vous l'avez rencontré, ce père, quand vous aviez 20 ans, Marine Diaye?
Oui, oui.
Vous
oui.
êtes allée en Afrique?
Oui.
Vous qui ne connaissiez pas ce continent?
Du tout. Je l'ai rencontré très brièvement lors de deux repas. Je ne l'ai jamais été en tête-à-tête avec lui, ce qui n'aurait rien changé du reste, car ce n'était pas un homme expansif, c'est le moins que l'on puisse dire. Ce n'était pas un homme à qui on pose des questions de toute façon, et puis je ne l'aurais jamais osé. Donc je l'ai vu, je ne pourrais pas dire que je l'ai rencontré.
Est-ce que la question que vous souhaitiez lui poser en prenant l'avion pour le rejoindre, c'est « Pourquoi nous as-tu abandonnés ?»
Oh non, 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 ça aurait été indécent. Non, non, ça aurait été des questions sur son enfance, sur sa jeunesse, sur pas du tout des questions d'ordre aussi grave. Et puis, je ne sais même pas s'il aurait eu la réponse à cette question, mais non, 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 ça aurait été presque une obscénité que de l'interroger là-dessus.
Sauf que c'est une question que vous avez dû vous poser souvent. Son départ, le fait de ne plus avoir de père, de ne pas avoir de père avec vous, en sachant qu'il vit une autre vie ailleurs. C'est peut-être même ça qui a fait de vous une écrivaine, qui sait ?
Oui, ça je ne le saurais jamais. Ce qui me trouble le plus dans cette histoire, c'est que lorsque ma mère et lui se marient, ils ont le projet d'aller vivre avec donc leurs deux jeunes enfants, mon frère et moi, au Sénégal, où ma mère rêvait d'enseigner et où mon père aurait travaillé comme ingénieur. Et quand il nous quitte, il s'en va pour préparer notre arrivée. Et il n'a plus ensuite donné la moindre nouvelle. Mais ce qui me trouble, c'est que si ce projet s'était réalisé, j'aurais été une jeune Sénégalaise avec une mère française, alors que j'ai été une jeune Française qui avait, par hasard, un père africain. Mon histoire, même en tant qu'être humain, aurait été radicalement autre.
C'est important, oui. Là, ce que dit Marine Diaye, parce que toute sa vie, elle l'a répété, elle continue, Marine Diaye, de répéter qu'elle est française, que certes, elle est métisse, mais qu'il faut la voir comme une écrivaine française.
Bien sûr,
beaucoup, peut-être de journalistes ou de lecteurs, la mettent dans une case africaine, qui n'est absolument pas ce qu'elle perçoit, ce qu'elle ressent profondément.
Mais c'est pas ce qu'elle est, c'est pas ce qu'elle écrit. Je me souviens d'une pièce qu'elle a écrite, que j'ai vue à la Comédie Française, s'appelle Papa doit manger.
Ah oui, on va écouter un extrait de Papa doit manger.
C'est moi, mon oiseau, c'est moi. Papa est revenu. La peau de papa est aussi noire que peut l'être la peau humaine. Ma peau est d'un noir ultime, insurpassable. Des noirs miroitants parmi lesquels mes yeux foncés paraissent presque délavés. Mais la bulleté avait besoin d'un autre cadre pour se développer. Tenez, regardez. Touchez un peu ça. Hein? Costume, chemise, montre, souliers. Regardez-moi. Approchez. Regardez mon visage. Ne voyez-vous rien de particulier?
Pas la moindre nouvelle. Pas un geste pendant 10 ans.
C'est bien, c'est bien.
Mais constatez, Zelbert, hein, j'ai 50 ans et j'en parais 30.
Il vient de téléphoner pour que tu lui rapportes le costume et les souliers dans la matinée. Il a insisté. Dis bien à Aimé que je veux tout avant midi.
Il a besoin du costume aujourd'hui. Et pas tant. Je dois revoir ma femme ce soir. Mais que va-t-elle penser si je me présente à elle, sapé comme un miteux? Rappelle ton frère. Demande-lui de patienter jusqu'à demain.
Ce spectacle reste en mémoire. C'était en 2003, Claire Denis. Vous disiez, je me souviens de... Je vous laisse poursuivre.
Papa doit manger. La représentation que j'ai vue à la Comédie Française.
Le retour d'un homme dans sa famille à Courbevoie.
C'est-à-dire une famille qui n'espère pas le retour d'un homme, mais elle sent que l'homme pourrait rôder autour, quoi. Voilà, il y avait ce mystère de...
On y revient.
De l'homme qui pourrait revenir, et on ne sait pas comment, dont la semence a engendré de beaux enfants. Voilà, ça comptait.
Marine Diaye.
Le père qui peut... revenir ou qui, comme dans la pièce, revient effectivement, mais sous plein de masques divers. C'est une sorte d'ogre aussi.
Hein, oui.
Ça me rappelle aussi ce début de Sans famille que j'ai lu et relu tant de fois lorsque j'étais enfant. Le père qui revient le soir de la Chandeleur, qui ouvre brutalement la porte de la modeste maison où vivent malgré tout dans la joie le petit Émile, il s'appelle, et sa mère adoptive, et le père gigantesque, terrible, ouvre et dit « Alors, on fait des crêpes ici ?» Et soudain, c'est le malheur qui s'abat sur la cabane.
Oui.
Il y a une autre lecture qui était essentielle pour la petite Marine Diaye, c'est ça.
Ça alors ?
Quoi ? Qu'est-ce que c'est ?
Oh, si, c'est ça ! C'est formidable !
Mais quoi ?
C'est un plan du vieux château !
Ton château ? Sur l'île ?
Oui, voyez ! Regardez ! Voici l'emplacement des oubliettes !
Tu crois ?
J'en suis sûre ! Regarde ! Voici le tracé des souterrains !
Oh !
Et là ? Voyez ce qui est marqué ?
Montre ! Lingot ! Lingot ?
Des lingots ! Il y a un S.
Mais tu penses qu'il s'agit de lingots d'or ?
Que veux-tu que ce soit ?
Tu as raison, Claude. Alors, les lingots seraient dans les oubliettes du château ?
Qui sait ?
Quelle aventure ! Tu imagines, Claude, des lingots d'or sur ton île ?
À partir de maintenant, avec Annie, Mick, François, Dago et moi, nous formerons le Club des Cinq.
Hurra !
Enid Blyton, qui, des années 40 aux années 60, invente plein d'histoires et d'aventures d'une bande. Ils sont cinq, vous vous souvenez du prénom du chien ?
Dagobert ?
Oui, Dagobert, il vient de dire Dago, effectivement, Dago. C'est Dagobert. Qu'est-ce qui vous passionnait dans le Club des Cinq, Marine Diaye ?
Oh, je crois que c'est ce qui captivait tous les petits lecteurs de cette série, c'était cette liberté d'explorer, de faire un peu n'importe quoi dont nous rêvions tous, et puis d'être une bande unie. Dans mon souvenir, il n'y avait jamais la moindre dispute entre eux, ou c'était sur des sujets véniels, c'était une vraie petite bande maligne, soudée, loyale. Et je me rappelle que mes amis filles s'identifiaient à Claude, et Claude était l'héroïne de l'histoire. Et moi, j'avais une grande tendresse pour Annie, qui était le double un peu terne de Claude, un peu le faire-valoir de Claude. Et j'aimais bien cette Annie qui n'avait pas les mêmes cartes que Claude entre les mains, mais qui était là, courageusement.
Est-ce que vous arrivez à dire, et c'est ce qu'on appelle une grosse question en jargon journalistique, pourquoi vous êtes devenue écrivain, Marine Diaye ?
Je pense que je me suis mise à écrire enfant pour faire comme Enid Blyton, pour faire comme, je ne sais plus qui est l'auteur de Fantomètre, pour faire comme Marcel Aimé avec
les Contes du chat perché.
Merveilleux conte du chat perché.
Delphine et Marinette.
Delphine et Marinette, c'est, qui était un enchantement.
On le relit d'ailleurs avec plaisir.
Ah oui.
Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps.
C'est de la haute littérature, je pense. Et j'ai écrit pour faire comme eux, hein, en fait.
On va se rendre dans un instant, Marine Diaye et Claire Denis, à Châteauroux, pour évoquer le festival Après le dégel. Mais pour l'instant, on va écouter Matt Berninger sans son groupe de rock américain The National. Nouveau disque en solo.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Take the stairs to the bottom where the lights are out, and I'll be there.
en direct de la radio. Ici Berry, Jérôme Monchal, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez Equinox, la scène nationale de Châteauroux, qui accueille la 4e édition du festival Après le dégel. Equinox qui fête aussi ses 30 ans. Alors d'une part, bon anniversaire, et c'est un peu la fête à Châteauroux.
C'est toujours un peu la fête finalement à Châteauroux, et ce festival, je pense, l'illustre bien. C'est seulement la 4e édition, mais c'est un festival qui est vraiment destiné à tous les habitants, c'est-à-dire qu'il est principalement gratuit, donc c'est aussi une fête pour eux, et c'est une sorte de cadeau qu'on leur fait à l'occasion de ce 30e anniversaire, puisqu'il y a 23 propositions, dont 17 sont gratuites, notamment le week-end final, hein, les 26 et 20, enfin autour du 25 mai, et c'est une manière pour nous de dire, regardez, la scène nationale, elle est vraiment à tout le monde.
Mais comment vous faites pour offrir des spectacles à une époque où le budget de la culture se réduit ?
C'est une bonne question. J'espère qu'on pourra le faire encore la saison prochaine. Mais je pense que c'est important de dire justement que les impôts de nos concitoyens sont pas uniquement réservés aux seuls spectateurs ou seuls abonnés, mais vraiment offerts à toute la population, à tous les habitants de Châteauroux, du département. Et des gens viennent de bien plus loin, évidemment, pour venir voir nos spectacles.
Bon, en tout cas, on entend que vous avez la pêche.
Oui, je pense qu'à défaut effectivement de financement, même si on n'est pas forcément les plus malheureux à Châteauroux, mais à défaut de financement qui abonde, il faut garder cette énergie et cette envie d'être avec la population.
C'est important de redire que c'est interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va voir du théâtre, on va voir du théâtre de rue, du cirque, de la marionnette et de la danse. Il y aura pas mal de danse, notamment dans votre programmation cette année. Ça commence le mercredi 14 avec Anne-Thérèse de Kersmaeker, qui présente quelque chose de nouveau ou pas ?
Mais j'ai l'impression qu'avec Anna de Kersmaeker, c'est toujours nouveau finalement. Parce que j'ai été assez épaté quand j'ai vu le spectacle, qu'elle puisse autant se renouveler. Et tout en étant elle-même. Donc ça, je trouve que c'est vraiment le signe d'une très grande, ce qu'elle est. Et on a sur scène 13 interprètes qui sont jeunes, alors ça participe aussi de ce renouvellement. Et on la reconnaît évidemment, avec notamment ses marches un peu martiales.
Oui.
Mais elle garde aussi la capacité de s'éparpiller. Elle garde cette envie de renouveler, avec notamment ici un apport très fort de la chanson. Et moi, j'ai trouvé vraiment que c'était un spectacle qui était extrêmement complet, d'une très très grande beauté et qui est vraiment pour moi capable de séduire un très large public.
Elle sera d'ailleurs à Avignon cet été avec Brel, un nouveau spectacle à la carrière.
Exactement, c'est ça, c'est un nouvel
création.
Ce sera un peu plus intimiste que cette grande forme que nous présenterons là, qui était d'ailleurs présentée à Avignon également la saison, enfin l'été dernier. Quoi.
Oui, c'est Exit Above, c'est ça hein.
Exactement, Exit Above, qui s'appuie vaguement sur La Tempête de Shakespeare.
Avec du hip-hop.
Il y a eu du hip-hop, on parle aussi beaucoup de climat, c'est vraiment aussi une pièce d'aujourd'hui. Et puis, pour moi, c'est aussi l'occasion de mettre en valeur Mesker & Mess, qui est la chanteuse qui se présente sur scène et qui danse hein, aussi avec les artistes. Et je crois que c'est aussi une nouvelle voix, c'est aussi une forme de diversité qui est bien agréable à voir au plateau.
Alors ce festival, cette 4e édition d'Après le dégel, elle ne se passe pas seulement à Equinox, la salle que vous dirigez, ça se produit dans plusieurs endroits de Châteauroux et même en dehors de Châteauroux, visiblement.
Alors ça se passe effectivement un peu en dehors de Châteauroux. Il y a un endroit, alors à Châteauroux certes, mais que j'ai envie d'exploiter, c'est la gare en fait, qui est le principal accès depuis Paris et ailleurs. Et dans cette gare, on va y faire un spectacle qui va illustrer finalement qu'est-ce qu'on vient faire dans une gare. C'est-à-dire l'attente, alors l'attente d'un train évidemment, mais aussi l'attente de l'autre, et aussi toutes les émotions qu'on peut ressentir, la lassitude, l'énervement, l'urgence. Le spectacle, il s'appelle « Sans crier gare », c'est Cécile Loyer qui le chorégraphie, et c'est beaucoup basé en fait sur une interaction avec le public. Donc c'est un spectacle qui va être renouvelé sans arrêt finalement pour les gens qui le verront, puisqu'elle elle fait une tournée sur toute la ligne Paris-Limoges.
Vous dites souvent que vous avez envie de dédramatiser le théâtre. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ce projet ?
La scène nationale de Châteauroux, elle est au centre-ville. C'est un immense bâtiment, très beau, hein, qui a 30 ans, qui est classé patrimoine du XXe siècle. Et moi, j'ai toujours l'impression que c'est un temple de la culture qu'on a construit ici. Et finalement, on a toujours peur de rentrer dans les temples. Et moi, dédramatiser le théâtre, c'est de dire, ben regardez, finalement, c'est pas grave, tout va bien se passer, venez, alors venez dans la salle. Et puis, si vous avez toujours un petit peu peur de venir dans la salle, alors que vous savez ce fameux, vous allez être choqués, mais je vais reprendre un slogan de McDo, c'est venez comme vous êtes. Et c'est ça, sans arrêt, que j'ai envie de dire aux gens, mais venez comme vous êtes, il n'y a pas de moment, c'est juste du quotidien finalement de venir au spectacle. Mais pour aider encore un peu plus, c'est vraiment, pour nous, ce festival, c'est vraiment l'idée d'être dehors et de pouvoir dire aux gens, regardez, il n'y a plus aucune raison de ne pas venir, parce que les spectacles qu'on propose sont très dynamiques, sont souvent drôles aussi, parce que l'idée, sont souvent aussi pour les enfants. Donc vraiment, c'est de dire, regardez, la scène nationale, elle est ici, elle est implantée sur son territoire, et elle est tellement bien implantée qu'on vous offre ça.
Dans votre festival, on va voir effectivement le spectacle Rester hydraté pour apprendre 1000 façons de boire un verre verre d'eau. Ça, ce sera de la danse. Il y aura une fausse conférence sur l'amour courtois et c'est un spectacle Vie de Grenier, c'est-à-dire Vie de Grenier, qui est un spectacle de rue. Donc, ça donne envie. Merci, Jérôme Monchal. Bonne chance à vous. Bonne fête, bonne suite. Directeur d'Equinox à Châteauroux pour le festival Après le dégel. Quatrième édition du 14 au 27 mai. Claire Denis, vous êtes en montage et nous aimerions savoir ce que vous montez précisément.
Ah, c'est difficile de parler du montage. Je suis rentrée du Sénégal il n'y a pas longtemps où j'ai tourné une adaptation d'une pièce de Bernard-Marie Coltès.
Laquelle ?
Combat de nègres et de chiens. Mm-hmm. J'avais pas pu avoir les droits en français de la pièce, donc je... Comme je savais que Bernard l'avait imaginé au Nigeria, je l'ai tourné en anglais. Et ça s'appelle The Fence, la clôture. Voilà, mais c'est le début du montage, c'est un peu des zones effrayantes.
Oui, vous avez une monteuse ou un monteur
Un monteur, oui.
Depuis longtemps ?
Depuis longtemps, je le connais depuis longtemps, oui.
Mais vous travaillez avec lui depuis longtemps, parce que souvent, oui. Il y a des couples de cinéastes avec leur monteuse ou leur monteur.
Je ne peux pas dire que c'est couple, j'ai travaillé avec... aussi une monteuse que j'aime beaucoup, Nelly, mais Guy, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis longtemps et qui me relève toujours parce qu'au début du montage, je suis pas très vaillante.
La peur qui tombe ?
Je sais pas, c'est de l'écriture et le tournage, c'est des moments très très forts et quand arrive le montage qui devrait être le moment où on atteint le sommet, disons, du travail, c'est là où on est peut-être où je me sens le plus vidée, le plus fatiguée, le plus loin du projet, quoi. Ouais.
Marine Diaye, vous n'avez pas envie de cinéma, vous écrivez des romans, bien sûr, vous écrivez du théâtre. Est-ce que connaître Claire Denis, avoir co-signé le scénario de White Material et l'entendre parler de différentes émotions au moment du tournage, de la réalisation et du montage, est-ce que ça ne vous donne pas envie de vous lancer dans l'écriture d'un film ?
J'en serais bien incapable. Seule, je ne pourrais jamais. Non, ce n'est pas mon métier. Ça a été une aventure avec Claire.
Ça n'est pas simple, certes, mais c'est de l'écriture, le cinéma.
Oui, mais c'est une espèce d'écriture si différente de celle des romans que je ne la vois pas comme une sorte d'écriture, comme un autre métier, un autre geste, quoi.
Vous comprenez ça, Claire Denis ?
Oui, oui. Je crois. Il y a une quête aussi, une enquête et une quête, mais pour moi, c'est pas du tout, en effet, comme l'écriture proprement dite de Marie, c'est comme... demander à Marie de m'aider à arracher des lambeaux d'une fiction qu'on pourrait assembler, quoi. C'est ça un peu, oui.
Merci beaucoup d'être venue, Marine Diaye. On rappelle le titre de votre roman qui paraît au Mercure de France, Le Bon Denis, et je souhaite un excellent montage à Claire Denis.
Tu n'es pas la bonne Denis.
Oui, c'est vrai.
Elle est la pauvre Denis.
Ah, j'aurais dû faire le jeu de mots avant vous. David Leprince a réalisé ce grand atelier. Louise Tempero, Virginie Rouzic, Betty Algret m'ont aidé à la préparer, ainsi que Valentine Chedebois à la programmation musicale. Il y avait aujourd'hui à la technique Tilaï Rabu.